Paul de Garros, le cœur incertain. La baronne Hermine de Brévillac était assise dans le petit salon en rotonde qui occupait le rez-de-chaussée de la grande tour du manoir du Buisson, où elle aimait particulièrement à se tenir. Par la grande baie ouverte sur cette belle journée de septembre, elle pouvait voir, au-delà des vertes pelouses du parc, les magnifiques futaies qui couronnent les hauteurs dominant Versailles. Mais ni la splendeur du jour, ni la beauté des bois n'avaient de charme pour elle. La baronne était une femme de 50 ans, à la taille svelte et bien conservée, mais dont le visage encore beau avait une expression hautaine et fermée qui lui enlevait tout attrait. Ses yeux noirs suivaient en ce moment les évolutions d'une petite voiture de malade traînée par un âne minuscule et occupée par un jeune garçon d'une quinzaine d'années. Les traits tirés et creusés par la souffrance du pauvre infirme étaient la reproduction exacte et curieuse de ceux de la baronne. Mais combien la flamme qui les animait les rendait différents. Les beaux yeux clairs du petit Lucien de Brévillac se fixaient à cet instant avec une tendresse passionnée sur un grand jeune homme de 26 à 28 ans qui s'avançait rapidement vers lui et dont l'athlétique carrure faisait avec sa frêle personne un contraste attristant. « Bonjour, Max !» s'écria joyeusement l'enfant. « Oh, quel bonheur de te voir ! Il y a si longtemps que tu n'es venu. Tu vas rester dîner, dis, et tu me promèneras dans le bois, il fait si beau. » Max arrêta le verbiage de l'infirme par une rapide caresse et lui dit d'un ton affectueusement bourru : « Oh, ce jeune crampon, je suis pressé aujourd'hui et j'ai à parler sérieusement à ta maman. Est-elle à la maison et n'a-t-elle pas de visite ?» « Oui, elle est là, toute seule. Mon père est parti en auto. Il ne rentrera pas dîner. Oh, tu devrais bien rester avec nous. On te voit si peu depuis quelque temps, cher grand frère. » « Non, 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 Lucien, impossible aujourd'hui. Je reviendrai une autre fois. Allez, au revoir. » Et Max Duplan se dirigea à grandes enjambées vers la maison en bourgonnant. « Pauvre petit. Ben, il m'aime bien, lui. Maintenant, il faut aborder sa maman. Qu'est-ce qui va sortir de cette explication ? Ah, je veux tant que mon beau-père soit absent, du reste. Quoique, oh, il soit brave homme, au fond, ce cher baron. Alors, allez, du courage, c'est presque ma dernière chance. » D'un seul bond, le jeune homme escalada les marches du perron et entra résolument dans le salon où se trouvait sa mère. Mais, arrivé là, son élan s'arrêta brusquement, et ce fut d'une voix hésitante et timide qu'il dit « Bonjour, mère, vous allez bien ? Je vais voir Lucien dans le parc, il me semble qu'il a bonne mine en ce moment. » Madame de Brévillac ferma son livre avec calme et répondit posément « « Oui, le chien n'est pas mal. Il a été très affaibli par sa rapide croissance, mais il se fortifie beaucoup maintenant. » Cette voix mesurée, ses yeux froids, avaient le don de glacer le pauvre Max, et cela depuis son enfance. Aujourd'hui, il le médusait. Il avait le cœur gros. Il venait faire une confession, demander un secours. Un accueil indifférent et poli lui ôtait tout courage, comme toute idée. Entre cette mère et son fils si dissemblables, aucun lien, aucune entente, aucune tendresse ne semblait possible. La baronne n'aimait pas son fils aîné, et toute son attitude en témoignait du reste. Pourtant, ce beau garçon, élégant, bien bâti, au visage franc et ouvert, aurait fait la joie de bien des mères. Mais l'orgueilleuse femme n'avait jamais pardonné au père de Max ce qu'elle appelait sa mésalliance. Cette mésalliance n'avait pas été, cependant, sans présenter quelques avantages appréciables. car si feu Monsieur Joseph Duplat emportait un nom roturier, n'était pas d'une éducation raffinée ni d'une grande distinction, il avait par contre un excellent cœur, une parfaite honnêteté et quelque chose comme 80 à 100 000 francs de rente. Ce bonhomme, Mademoiselle Hermine de Coudert, fille aînée du comte de ce nom, élevée dans l'idée que sa beauté et sa naissance lui donnaient droit aux plus hautes situations, avait cru faire une grande grâce à ce brave homme en acceptant son nom et sa fortune. Ce ménage, tout en gardant une parfaite correction extérieure, n'avait naturellement pas été heureux. Le bon Joseph Duplan avait cruellement souffert de l'indifférence de la sécheresse de cœur de sa femme. Aussi avait-il reporté toute sa tendresse sur leur fils, le petit Max, dont la naissance l'avait rendu fou de joie. Malheureusement pour l'enfant, cette tendresse lui manqua tout à coup, justement à l'âge où il commençait à en avoir le plus grand besoin. Il avait 10 ans quand son père mourut brusquement de la rupture d'un anévrisme. Cette mort le laissait doublement orphelin, car non seulement il perdait un père excellent, qu'il adorait, mais à partir de ce jour, sa mère, qui n'avait jamais été tendre, se désintéressa complètement de lui. En effet, Madame Duplan, qui, de par la générosité de son mari, se trouvait à la tête d'une belle fortune personnelle, mit son fils au collège, porta un deuil correct et, au bout de 18 mois, épousa le bel Hector de Prévillac, qu'elle avait connu autrefois chez ses parents, qui n'avait pas un sou, était doué d'une médiocre intelligence, mais portait un tortil de baron dans ses armoiries. La nouvelle baronne avait réalisé tous ses rêves. Elle était noble, elle était riche, elle avait une habitation magnifique, une automobile à ses ordres, un mari à ses pieds. Pourquoi alors semblait-elle plus triste, plus sombre, plus fermée que jamais? C'est que la Providence, par un juste retour, lui avait infligé la plus terrible des épreuves. Cette femme, si manifestement insensible, aimait follement, passionnément, exclusivement le fils qu'elle avait eu de son second mariage, le pauvre petit Lucien. Il est vrai de dire que cet enfant était adoré, était le plus charmant, le plus tendre, le plus intelligent, le plus délicieux qu'on puisse rêver. Hélas, après avoir eu une enfance délicate et avoir donné à ses parents toutes les angoisses et toutes les inquiétudes, il avait eu, vers sa 12e année, une déviation de la colonne vertébrale. Cet accident terrible l'avait mis à 2 doigts de la mort et l'avait laissé complètement impotent, privé à jamais de l'usage de ses jambes. La baronne avait failli en perdre la raison. Peu à peu, cependant, il y avait eu un peu d'amélioration dans l'état du petit malade. On avait pu le sortir de la gouttière de plâtre dans laquelle il avait été enfermé pendant 2 ans. Il pouvait rester assis dans un fauteuil ou dans sa voiture, lire, écrire, causer, enfin, vivre un peu, comme tout le monde. Néanmoins, Madame de Prévillac était restée profondément aigrie par cette douloureuse épreuve. Tout son entourage souffrait de cet état d'esprit. Son mari, sa fille, Marcel, de 2 ans, plus jeune que Lucien, et surtout le pauvre Max, dont la force et la santé faisaient contraste avec la faiblesse et la fragilité de son frère. Après être resté quelques minutes debout et silencieux au milieu du salon, Max s'assit brusquement sur une petite chaise et lança tout d'un haleine, comme s'il eût eu peur de ne pouvoir continuer s'il s'arrêtait. « Maman, je viens vous dire quelque chose, oh, quelque chose de bien ennuyeux. Je suis ruiné. »«
Ruiné ?»
s'écria la baronne avec plus d'indignation que d'étonnement. « Et par quelle série d'absurdités es-tu arrivé à ce brillant résultat ?»« Ben, n'en sais rien du tout. » J'ai toujours dépensé sans compter. C'est vrai, mais il me semble que j'ai pas fait tant d'absurdités que cela. Mon garçon, ton tuteur t'a remis exactement le jour de ta majorité la somme de 1 200 000 francs, qui, placée comme il l'était, devait te rapporter de 60 à 70 000 francs de rente. Bon, mais encore une fois, par quel procédé as-tu dissipé cette somme en l'espace de 7 ans? Ma chère mère, vous comptez fort bien, mais à quoi servirait l'exagération de mes absurdités, comme vous le dites? Je suis ruiné, c'est un fait. Il est inutile de se lamenter. Il vaut mieux chercher un remède à cette situation. Eh bien, quel remède comptes-tu employer? Dit la baronne d'un ton pincé. Bien, d'abord en vendant tout ce qui me reste, mes tableaux, mes meubles, mon auto, en faisant rentrer quelque argent prêté à des amis, je pense liquider à peu près mes dettes. Vous voyez que je n'ai pas fait tant de folie que vous semblez le penser. Oh, naturellement, c'est moi qui ai tort. Tu es la sagesse et l'économie même. Mais je serais curieux de savoir quels sont tes projets. Maman, je pensais, j'espérais que vous consentiriez à m'aider un peu. Comment, à t'aider? Te donner de l'argent? Non, pas me le donner, me le prêter. Je travaillerai, je vous le rendrai. Madame de Prévillac éclata de rire. Te prêter de l'argent? Et pourquoi faire? Pour que tu continues ta vie déréglée et que je te vois revenir dans 3 mois exactement sur le même point qu'aujourd'hui. Mais tu rêves, mon pauvre garçon. En entendant ces paroles ironiques, Max rougit violemment. Il fut sur le point de répondre sur le même ton, mais il se contint et, se rapprochant de sa mère, lui dit d'une voix un peu tremblante: Non, maman, ne vous moquez pas de moi. Je suis très malheureux, je vous assure. Oui, j'ai sottement gaspillé mon argent. J'avoue que j'ai eu grand tort, mais je n'ai jamais rien fait de mal, ni de déshonorant. Vous n'avez pas à rougir de moi. Ah, il ne manquerait plus que cela, interrompit aigrement la baronne. Comme s'il n'avait pas entendu, Max continua. Maintenant, j'ai 28 ans, je suis raisonnable, je veux travailler et refaire ma vie. Pour cela, il ne me faut qu'un peu d'aide. Je viens vous le demander. Vous n'aurez pas à vous en repentir, je vous le jure. Bon, tout cela, ce sont des mots, mon ami. Que veux-tu? Dis-le. Quoique je puisse certainement rien pour toi. Oh, vous le pouvez si vous le voulez. Voici, il me faut 10 000 francs. Avec cet argent, je partirai en Tunisie faire de l'agriculture. Max, tu parles sérieusement? Oui, très sérieusement. J'ai bien réfléchi, allez, avant de me décider. Maintenant, je suis résolu. J'ai retrouvé, il y a 3 mois, un ancien camarade de régiment. C'est un brave garçon, intelligent et débrouillard. Il est le fils de paysan qui avait un peu de bien. Les vieux sont morts, mais le bien partagé, il ne reste pas grand-chose à chacun, car ils sont 4 enfants. Et les frères et sœurs de mon camarade lui ont proposé de lui racheter sa part. Alors il a accepté, il possède 5 000 francs. Il veut s'installer en Tunisie et se livrer à la culture des primeurs. Seulement, 5 000 francs sont insuffisants pour faire quelque chose de bien. Je veux m'associer avec lui. Il s'occupera de la partie technique, moi de l'administration. Nous sommes bien portants et courageux, tous les deux. Nous réussirons. Maman, encore une fois, venez à mon secours. Je vous en supplie. Mais sans cela, qu'est-ce que je vais devenir? Madame de Prévillac avait écouté toute cette explication sans sourciller. Elle parut réfléchir un moment. Puis, de son ton le plus indifférent, elle répondit: Mon ami, tout ce que tu me dis là est fort beau, mais malheureusement je n'y crois pas. Tu as été fou jusqu'ici, fou tu resteras. On ne se refait pas à ton âge. Ton père t'a ridiculement gâté pendant ton enfance. Et quand j'ai voulu réagir contre cette mauvaise éducation, il était trop tard. Tu ne m'as jamais écouté. Et comme tu le vois, c'est regrettable pour toi. Maintenant, tu t'adresses à moi pour réparer tes folies. Mais je ne peux ni ne veux entrer dans cette voie. Ce serait néfaste. Alors, mère, vous refusez. Vous n'avez pas confiance en moi. Non, non, je refuse, je n'ai pas confiance du tout. Tu sais que ton beau-père n'a aucune fortune personnelle. Je dois garder la mienne pour mes autres enfants. Je ne peux donc rien pour toi. Tu as eu une part assez belle et il fallait la conserver. Mais enfin, maman, s'écria Max avec violence, mais que voulez-vous que je fasse? Un apache, un cambrioleur? Que je me fasse sauter la cervelle? Ah, ce serait une solution et personne ne me regretterait. Bon, il est inutile de se livrer à ces manifestations mélodramatiques et vulgaires, interrompit la baronne sans s'émouvoir. Je les ai en horreur. Allez, bon, reste en voilà assez sur ce sujet. Tu sais que je ne reviens pas sur une ma décision. Puis, tranquillement, comme si de rien ne s'était passé, elle ajouta « Que fais-tu ce soir, Max? Si tu restes dîner, tu préviendras à l'office. Moi, je vais me reposer dans ma chambre, mal à la tête. » Cette conversation avait exaspéré au plus haut point le jeune homme qui ne brillait pas par la patience. Il suffoquait. Se levant d'un bond, il saisit son chapeau et pour fuir plus vite la présence de cette mère qu'il jugeait dénaturée, il sauta par la fenêtre, puis disparut bientôt à travers le parc. Il était 5 heures au soir, le soleil commençait à descendre à l'horizon et mettait une lumière d'or à travers les belles futaies qui composent les bois de fausse repose au-dessus de Versailles. Par cette soirée magnifique, un jeune homme cheminait lentement. Il pouvait avoir une trentaine d'années, et portait avec grâce un costume de la plus irréprochable correction. Son veston gris d'une coupe parfaite, ses bottines claquées de daim, ses gants de chamois clair, sa cravate éblouissante, son visage complètement rasé selon la mode du jour, tout enfin dans son accoutrement dénotait un souci d'élégance, peut-être exagéré. Tout à coup, le promeneur solitaire tressaillit en entendant sur sa droite un bruit de branches brisées. Il s'arrêta et resta pétrifié au milieu du chemin. Un homme débouchait du taillis, pâle, les vêtements en désordre, couvert de terre et de mousse, les cheveux embroussaillés, en un mot, ayant la mine de quelqu'un qui vient de faire un mauvais coup. Une double exclamation retentit quand les deux hommes se trouvèrent en présence. « Max, Rémi !» Et l'élégant Rémi Boisléger contemplait avec stupéfaction son ami Max Duplan, car c'était lui, en se demandant non sans inquiétude ce qui avait bien pu lui arriver. De fait, le pauvre garçon venait de passer une heure affreuse, seul avec ses pensées, ses soucis et son indignation. Comme un grand enfant qu'il était resté, il s'était laissé aller à son désespoir et avait pleuré de tout son cœur en se roulant dans la mousse. Ceci avait eu le bon résultat de le calmer un peu, mais n'avait pas arrangé sa toilette. La rencontre de son ami rendit soudain toute sa présence d'esprit à Max. Il avait tant d'affection pour son vieux camarade. Cette amitié était précieuse à Rémi Boisléger, à toutes sortes de points de vue. Il est si commode, quand on est sans le sou, d'avoir un ami riche, généreux, étourdi et sans méfiance. C'est une mine qu'il est bon d'exploiter, mais aussi de ménager. Malheureusement, depuis un certain temps, la mine s'épuisait, sensiblement, ce qui n'était pas sans causer quelques contrariétés au jeune homme dont le vague métier de journaliste n'était pas très lucratif. Max, naturellement, ne s'apercevait de rien. Aussi, ce fut avec un élan de véritable joie qu'il s'écria en tendant les mains à Rémi. « Oh, mon cher ami, quel bonheur de te rencontrer! Oh, j'étais absolument en train de perdre la boule !»« Oh, je m'en aperçois, » riposta l'autre, un peu sèchement. « Mais d'où sors-tu ainsi, fait comme un voleur? Allons, allez, secoue-toi un peu, on te prendrait pour un apache. » « Bon, ça ne m'étonne pas, » répondit Max, en agitant avec insouciance son épaisse crinière brune. « Voilà une heure que j'ai mis affalé dans l'herbe. Ah, vieux camarade, je suis bien malheureux, vois-tu. Si j'avais eu un revolver sous la main, je crois que tu ne m'aurais pas retrouvé vivant. Enfin, explique-toi, voyons, d'où vient cette crise subite de désespoir ?» Mais comment, subit, mais tu sais bien que je suis ruiné, fini, perdu. Rémi tressaillit légèrement et son visage eut une expression glaciale. Mais il répondit tout de même avec une certaine brusquerie affectueuse. Oui, tu es ruiné, je le sais bien, sûr, mais et après, tu n'es pas plus aujourd'hui qu'hier. Et puis en fin de compte, tu as une mère riche. Oh, une mère! Éclata Max avec indignation. Oh, tu peux en parler. Devant mon repentir et mon désespoir, elle n'a pas eu un mot de pitié, pas un élan de tendresse, rien. Oh, je peux mourir, c'est pas elle qui me regrettera. Tu exagères, Max, ta mère t'en veut d'avoir mangé ta fortune. Faut avouer qu'elle n'a pas tout à fait tort. Mais si, elle a tort, tout à fait tort. Si ma mère m'avait élevé, aimé, comme c'était son devoir, je n'aurais jamais fait toutes les sottises qu'elle me reproche maintenant. Moi, qui l'aurais tant aimé, si elle avait voulu, mais voilà, elle n'a aucune affection pour moi. Et la voix du pauvre garçon se brisa dans un sanglot. Il avait les yeux pleins de larmes. Voyons, voyons, calme-toi, implora Frémy. Oh, si tu crois que c'est une vie, d'avoir personne au monde qui tienne à vous, autant mourir tout de suite. Mais sur un geste de protestation de son ami, le jeune homme s'arrêta et reprit avec élan. Oui, mon vieux, je sais bien que toi, tu es un véritable frère. Et puis, il y a aussi mon petit Lucien qui m'adore, mais... Mais tu oublies encore quelqu'un, souffla Boisléger avec un sourire entendu. Le front chargé de nuages de Max s'assombrit encore et il murmura douloureusement « Oh Léa, oh Rémi, c'est sa pensée qui me désespère. C'est pour elle que j'ai eu le courage d'aller implorer ma mère aujourd'hui. J'avais rêvé de refaire ma vie, de travailler. J'aurais passé un an ou deux en Tunisie. Elle m'aurait attendu, puis nous nous serions mariés. Elle serait venue là-bas, dans une petite maison que j'aurais fait bâtir pour elle. Allez, Virginie, goya Rémi, qui semblait peu goûter cette idylle. Oh, chère petite Léa, continua Max, sans prendre garde à l'interruption. Elle est si belle, si bonne, si intelligente. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir seule avec son vieux père? Car hélas, il faut bien que je renonce à elle, moi. Je ne sais rien, je ne suis bon à rien, je ne serais même pas capable de gagner ma propre vie. Comment entraîner une femme dans une pareille misère? Tandis que moi, disparue, jolie comme elle est, elle trouvera des parties à la douzaine. Mais tu as fini tes lamentations, interrompit Boisléger, visiblement agacé. Écoute, je vais te donner un conseil. Puisque tu supposes que le joli physique de Mademoiselle Léa Perret doit lui emmener de nombreux prétendants, fais comme elle. Cherche-toi une femme qui te prenne pour tes beaux yeux. Mais oui, tu as raison, j'ai souvent pensé à cette solution. Elle serait bien simple, mais si je n'aimais pas tant Léa. Tiens, tiens, monsieur le désespéré. Tu as des vues sur une millionnaire? Mes compliments. Non, voyons, Rémi, ne ris pas. Je suis atrocement malheureux et perplexe. Oui, c'est une chose que je ne t'ai jamais dite, car je ne voulais point y penser moi-même. Mais maintenant que j'ai perdu tout notre espoir, me raccroche à cela, malgré moi. Tu sais, ta cousine Marguerite Verdier, eh bien, je suis sûr, oh, sûr autant qu'on peut l'être avec une personne aussi réservée. Enfin, je me doute qu'elle m'aime et qu'elle m'épouserait si je voulais. Ma cousine Marguerite, clama Rémi abasourdi, mais elle a 10 ans de plus que toi. Alors, pardon, 5 ou 6 au plus. Enfin, où as-tu fait cette belle découverte? Bon, tu sais, elle ne m'a pas fait une déclaration, mais ces choses-là se sentent. Eh bien, tu peux dire que tu en as de l'astuce. Moi qui te croyais tout occupé de cette pauvre Léa Perret, et tu cultives les héritières. Car tu sais, elle a le sac, Marguerite. Cette folle de tante Claire, qui était sa marraine, lui a laissé toute sa fortune, 50 000 francs de rente. À notre détriment, comme tu t'en souviens, puisque mon père était son cousin Germain, il aurait dû hériter. Mais nous nous sommes brossés. La chère filleule, choyée, gâtée par sa marraine, qui l'a fait élever comme sa fille par cette vieille perruche de Mademoiselle Varlet, c'était ce qu'il voilà ce qu'il lui fallait. C'était un amour, une merveille, une perfection. Mais elle a au moins 32 ou 33 ans. Elle n'a pas encore trouvé son idéal. Et c'est sur toi que cette déesse a enfin jeté les yeux. Non, oh non, c'est comique. Et Rémi Boileger, à qui décidément ne semblait pas agréer les confidences de son ami, éclata d'un rire sec qui sonnait faux. Le trop confiant Max s'en fut lui-même désagréablement impressionné. Eh bien, qu'as-tu à te tordre, dit-il. C'est tellement drôle ce que je te raconte. Je ne te dis pas que Mademoiselle Marguerite m'a sauté au cou, mais je suis certain, tu entends certain, que je ne lui déplais pas. Et ce qui me le prouve encore plus que son attitude à elle, c'est celle des Létuleuils, quand par hasard nous nous trouvons ensemble. Il faut une telle tête. Ben, parbleu, c'est que l'argent de Marguerite fait bien dans les maisons. Dame, Jeanne Letuel n'a pas eu la veine de sa sœur. Elle n'avait pas le sou, naturellement. Le père Verdier était un vrai panier percé. Il avait un caractère. Aussi sa fille a accepté le premier chien coiffé, qui a bien voulu d'elle. Au fond, elle n'est pas heureuse, la pauvre. Level est un crétin, il gagne quoi, 4 000 francs au ministère, et ils ont 2 garçons à élever. Ah, si Marguerite se mariait, ce serait gentil. Ne te frappe pas, elle n'est pas mariée, je n'ai pas encore dit oui. Elle est pourtant charmante, ta cousine. Oh, je suis sûr qu'elle fera une femme délicieuse. C'est dommage tout de même que j'ai le cœur pris ailleurs. Voyons, Rémi, donne-moi un conseil. Crois-tu qu'il soit honnête de l'épouser dans ces conditions? Honnête? Ça dépend, bougonna l'autre. Oh, voilà une question. Mais oui, ça dépend d'un tas de considérations. Tu m'as ahuri à la fin. Tu veux te tuer, puis tu veux partir. Et maintenant tu parles de te marier. Quoi encore? Mais que veux-tu qu'on le réponde à un fou comme toi? Et puis tu sais, allez, je file, tu m'as fait perdre tout mon temps. Il faut pourtant que je sois avant la nuit chez ma tante Renaudier. La brave femme se couche à 7 heures. Moi, je n'ai pas d'héritière en perspective. Mais si tes fonds sont bas, les miens sont à sec. La chère tente de la bonté même, et se laissant assez facilement tirer un billet de 100 francs, par-ci, par-là. Pardon, mon pauvre vieux, s'écria Max. Oh, je suis un égoïste. Je ne te parle que de mes soucis. Mais vois-tu, j'étais si bouleversé, et cela m'a fait tant de bien de décharger mon cœur. Toi aussi, tu es ennuyé. Hélas, autrefois, j'aurais pu t'aider, mais maintenant, me reproche même une chose, c'est de t'avoir suivi dans cette affaire de mine. Je t'ai servi à rien et je t'ai porté malheur. Oh, le fait est que ça a plutôt mal tourné, répondit moi léger, soucieux. Je m'en occupe pourtant avec activité. Et toujours la déveine? Eh oui, enfin, si on peut seulement arrêter les frais sans trop d'avarice, ça ira. Malheureusement. Mais malheureusement quoi? Ben, il faudrait pas que nos actionnaires nous demandent des comptes trop vite. Ça pourrait faire du grabuge. Mais nos actionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Questionna l'innocent Max, tout étonné. Oh, rien, rien, répondit vivement Rémi en se mordant la langue. T'inquiète pas, ben, je ferai pour le mieux, allez, compte sur moi. Mais à propos, il faudra que tu passes un jour au bureau. J'ai quelques signatures à te demander. Oh non, de signatures sans importance, seulement pour la régularité des comptes, tu sais, là-dessus, je suis le scrupule même. Oui, je le sais aussi. J'ai une confiance aveugle en toi. Je signerai ce que tu voudras, naturellement. L'homme scrupuleux se mit à rire et s'écria légèrement. Allons, ne nous tracassons pas trop. Quand t'auras épousé ton million, vive la joie. Max prit un air grave et répondit vivement. Oh non, pas cela. Si jamais j'épouse Marguerite, je serai un mari modèle. Et son argent me sera sacré. Ce serait trop vilain autrement. Mais bien sûr, je riais. On n'attaque pas ta vertu, va. Les deux jeunes gens qui, au cours de cette longue conversation, s'étaient assis sur un des bancs rustiques disposés dans le bois par les soins prévoyants du syndicat d'initiative de Versailles, se levèrent et se dirigèrent de compagnie vers la porte de Villeneuve qui ne se trouvait qu'à quelques pas de là. Après s'être serré la main, ils prirent l'un le chemin de la gare, l'autre le sentier qui conduisait à la modeste habitation de la tante Renaudier. Celle-ci demeurait avec sa vieille bonne Rosalie et sa petite fille, Marie-Rose, au rez-de-chaussée d'une assez vaste maison, sorte de pension de famille, où l'on louait de petits appartements à des femmes seules qui trouvaient là une installation tranquille et convenable pour un prix modique. Marguerite Verdier était une fort jolie femme en tout temps, mais elle était particulièrement bien lorsqu'elle montait à cheval. Elle était grande, d'une taille élégante, bien proportionnée. Aussi le costume d'Amazone qu'elle portait ce matin-là faisait-il valoir la jolie ligne de son buste, la tache parfaite de ses bras et de sa nuque surmontée d'un gentil petit tricorne. Son visage, trop pâle, était loin d'être parfait, mais le regard charmant de ses beaux yeux gris, le sourire de sa bouche mobile et fine, rachetaient le défaut du nez un peu gros et des joues trop lourdes, souvent blafardes. Malgré toutes ses imperfections, cette tête de femme était extrêmement attachante. On sentait que celle qui avait ce visage calme était réellement profondément bonne et intelligente, et qu'il n'y avait sous ce front, couronné de magnifiques cheveux châtains, que des idées élevées et des pensées droites et pures. À 32 ans, Marguerite paraissait en avoir 25, tant elle avait l'air candide et simple. À 32 ans, elle était restée une vraie jeune fille, avec tous les élans, la sensibilité, la générosité, la confiance de la jeunesse. En même temps, elle était grave et réservée comme une femme qui a réfléchi, souffert et va souffrir. En sorte que ce mélange faisait d'elle une personne un peu exceptionnelle et tout à fait charmante. Aussi le colonel Verdier, oncle paternel de Marguerite, qui lui servait de cavalier, n'était-il pas peu fier de l'escorter? Le colonel était un brave homme, franc et un peu rude, qui avait dû prendre sa retraite prématurément, car sa santé délabrée par le trop long séjour aux colonies ne lui avait pas permis de continuer sa carrière, Et il vivait modestement de sa pension. N'ayant rien à faire, il s'était improvisé le professeur d'équitation de sa nièce, qui avait pris le goût le plus vif à ce sport. Il est vrai que depuis la mort de sa marraine, arrivée 2 ans plus tôt, la vie n'était pas gaie pour la jeune héritière. Sa sœur Jeanne, élevée par son père, c'est-à-dire pas élevée du tout, n'avait ni ses idées ni ses goûts. De plus, la pauvre créature, abrutie par une vie mesquine et des soucis matériels toujours renaissants, n'était pour son aîné d'aucun secours intellectuel. Marguerite, quand elle s'était trouvée en possession de son héritage, avait cru de son devoir de partager sa fortune avec les siens. Elle habitait donc avec sa sœur et son beau-frère depuis 2 ans. Mais elle s'était vite aperçue que l'argent ne suffit pas lui seul pour créer un intérieur agréable, une famille unie, un foyer enfin. Jeanne Letuel avait toujours été nonchalante, désordonnée, paresseuse. L'argent que sa sœur lui donnait passait dans ses mains sans profit pour personne. Quant à Félix Letuel, il n'était guère plus courageux que sa personne. Pas plus courageux que sa femme, et pas plus intelligent. Seulement, il retrouvait soudain une grande énergie lorsqu'il s'agissait d'accabler son épouse d'injures et de reproches ou de se plaindre de tout et de tous. Marguerite souffrait cruellement de cet état de choses qui était si contraire à sa nature élevée et fine et auquel elle ne pouvait apporter aucun remède efficace. Quitter ses parents, bon, il y avait songé souvent. Se marier, c'eût été une solution, mais la sage Marguerite ne s'était jamais mise en face de cette idée. Cependant, depuis 2 ans que la jeune fille était riche, les parties ne lui avaient pas manqué. Mais les prétendants, pris dans le milieu un peu vulgaire des Letuel, n'avaient jamais été de son goût. Un seul homme aurait pu lui plaire, car il était incontestablement intelligent et distingué. C'était son cousin Rémy Boisléger. Il lui avait fait pendant quelque temps une cour discrète. Mais la jeune fille éprouvait pour lui une véritable antipathie. Il s'en était rendu compte et s'était retiré. Marguerite aurait été du reste bien incapable de donner la raison du sentiment tout instinctif qu'elle ressentait pour son cousin, pas plus qu'elle ne savait pourquoi elle éprouvait une si vive sympathie pour l'ami, l'inséparable de Rémy, le beau Max du plan. Elle avait tout souvent l'occasion de rencontrer les deux jeunes gens, et de tout temps elle s'était sentie attirée par la nature droite, généreuse, confiante de Max. Elle savait qu'il était seul au monde, sans guide, sans parents, ayant une mère qui ne l'aimait pas, et ceci paraissait à la tendre Marguerite le pire des malheurs. Elle avait toujours envie de lui proposer son affection, de lui donner des conseils, comme une grande sœur. Elle aurait voulu s'occuper de lui, pénétrer dans sa vie, le diriger vers le bien, l'aider à sortir de l'existence frivole qu'il menait. En un mot, il l'intéressait plus qu'elle ne voulait se l'avouer à elle-même. Ce matin-là, Mademoiselle Marguerite trottait gaiement aux côtés de son oncle dans les allées du bois, quand un cheval, lancé à fond de train, vint presque la heurter. Sa jument eut peur, se cabra, puis partit au galop à la suite du malencontreux cavalier. Celui-ci, en entendant du bruit derrière lui, arrêta sa monture avec une extrême aisance, et se retournant, aperçut la jeune fille qui cherchait en vain à maîtriser sa bête affolée. Max, car c'était lui, reconnut immédiatement l'Amazone. Tiens, tiens, comme ça se trouve, bougonna-t-il, en mettant lestement pied à terre juste à temps pour saisir la bride de la jument qu'il arrêta net. Oh, monsieur Max, quelle peur vous m'avez faite! S'écria Marguerite. Oh, recevez mes excuses, mademoiselle, je suis tout à fait désolé. Je ne me pardonnerai jamais de vous avoir causé cette frayeur. À ce moment déboucha le colonel. Ah, elle est bien bonne, s'écria-t-il. Accompagnez donc les demoiselles, pourquoi premier détour, elles vous plantent là, pour courir après les jeunes gens. Oh, monsieur, répliqua Max, je vous réponds bien que c'est par force que mademoiselle Verdier a couru sur mes traces. C'est bon, répondit le colonel en riant. On vous pardonne, et si cela vous ennuie pas trop, vous promenez en compagnie de gens raisonnables, ben, je vous invite à nous accompagner. Max ne se fit pas répéter deux fois l'invitation, et ravi au fond de l'aventure, il se mit à caracoler aux côtés de la belle Amazone que le destin mettait si complaisamment sur son chemin. Vous savez, monsieur Max, dit Marguerite au bout d'un instant, nous allons à Bagatelle. Ce côté du bois est ravissant, mais on est bien plus tranquille que dans l'allée des acacias. Certainement, acquiesça le jeune homme d'un air désabusé. Je déteste l'humanité en général, mais les échantillons qui s'exhibent dans les endroits chics me dégoûtent particulièrement. Non, mais quel accès de misanthropie! S'exclama la jeune fille en riant. Mais que vous est-il donc arrivé, grand Dieu? Oh, il m'est arrivé une chose bien simple, que j'aime autant vous dire tout de suite, car vous la sauriez bientôt de toute façon. Je suis ruiné, et dans quelques jours, je ne saurai plus où poser ma tête. Il me restera comme ressource d'aller demander mon pain sur les routes ou de faire un plongeon dans la Seine. Tenez, là-bas, au-dessus du barrage de Suresnes. Marguerite ouvrit de grands yeux et regarda curieusement son compagnon. Elle était peu habituée à lui entendre prendre ce ton et restait tout étourdie de la confidence. Oui, vous pouvez me regarder, continua Max avec amertume. Je me suis sottement ruiné. Je n'ai pas de métier, personne ne s'intéresse à moi, alors pouf, à quoi bon vivre? Mais malheureux est votre mère. Oh, taisez-vous, mademoiselle, ne me parlez pas d'elle. Vous ne savez pas quel chagrin vous me causez. Le colonel, à ce moment, se trouvait en arrière, laissant les deux jeunes gens bavarder sans se mêler à leur conversation. Ils étaient donc seuls, presque en tête à tête. Marguerite, plus émue qu'elle ne voulait le paraître, se rapprocha de son compagnon et lui dit affectueusement: Mon ami, je sais que vous êtes malheureux, et je voudrais pouvoir vous être de quelque secours, car j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour vous. Il m'est permis de vous dire cela, puisque je suis votre aînée, ajouta-t-elle en rougissant un peu. Oh, mademoiselle Marguerite, je sais bien que vous êtes la bonté et l'indulgence même. Je serais trop heureux si j'avais pu mériter votre amitié, mais j'en suis si peu digne. Que peut-il y avoir de commun entre un pauvre diable comme moi, sans le sou, stupide, dévoyé, à peine instruit, et une jeune fille comme vous? Quelle idée! Allez, tenez, à partir d'aujourd'hui, je suis votre ami. Donc, en cette qualité, je vais vous faire la morale. Voyons, un homme comme vous, jeune, bien portant, pas stupide du tout, contrairement à ce que vous prétendez, n'a pas le droit de se laisser aller ainsi. C'est une honte à travailler. Allez, travailler, que diable! Mais à quoi? Je vous dis que je ne suis bon à rien et que personne ne s'intéresse à moi. Mais puisque je suis votre ami, reprenez courage, voyons. Arrangez vos affaires, liquidez le passé et cherchez-vous ensuite une situation. Le travail est un remède à tant de maux. Tenez, je suis sûr que si votre mère vous voyait travailler courageusement, elle serait plus indulgente et vous viendrait en aide. Max eut un geste de doute découragé. Il sentait vaguement que la pitié était peut-être le meilleur chemin pour atteindre le cœur de Marguerite. Aussi continua-t-il ses lamentations, de bonne foi du reste, car il était réellement malheureux. De plus, il goûtait inconsciemment le charme de se faire plaindre par cette voix douce et compatissante. Mademoiselle, reprit-il, je vais tâcher de vous écouter et m'efforcer de refaire un homme de la pauvre loque que je suis. Mais j'aurais besoin d'être guidé et encouragé dans cette nouvelle voie. Et je suis toujours seul, livré à moi-même. Il faudrait que vous puissiez me conseiller, me gronder quand ce serait nécessaire. et n'est-ce pas trop demander à votre dévouement? Oh non, dit-elle vivement. Entraînée malgré elle en dehors de sa réserve habituelle, je veux bien faire pour vous tout ce que je pourrai. Alors j'irai vous voir demain, déclara le jeune homme. Oh, quel fou! Mais non, non, je suis très occupé ces jours-ci. Patatras, voilà ma chance. J'ai une amie, c'est un miracle, mais quand j'ai besoin d'elle, mon amie est occupée. Max, c'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Voulez-vous être raisonnable? Je vis, comme vous le savez, chez ma sœur. Je ne suis pas toujours libre. Je vais chez les Braly demain soir avec ma sœur et son mari. Monsieur Braly est le chef de bureau de Félix. Mon cousin Rémi est très bien vu dans la maison. Ben faites-vous amener par lui. Je n'aime pas beaucoup danser. Nous causerons. Oui, je veux bien, approuva Max avec élan. À ces mots, Marguerite rougit brusquement et s'arrêta net. Elle s'apercevait avec stupéfaction que depuis une heure, elle causait avec son cavalier et qu'elle avait totalement oublié le colonel. Ce dernier trottait philosophiquement à 100 mètres des jeunes gens et n'avait pas l'air de se formaliser outre mesure de l'abandon où le laissait sa nièce. « Mais mon oncle, s'écria-t-elle toute confuse, pourquoi restez-vous ainsi en arrière? C'est bien impoli de ma part de vous abandonner de la sorte. » « Oui, oui, mademoiselle, parfaitement impoli, répondit le brave homme en souriant. « Mais tu sais, ma petite fille, je ne suis pas très loquace de ma nature. Je laisse volontiers la parole aux jeunes gens qui ont besoin de se délier la langue. Un petit temps de trop pour revenir. » Ils obéirent docilement à cette injonction et se mirent à trotter sagement de chaque côté du colonel. Après l'élan qui les avait jetés l'un vers l'autre, ils étaient tous les deux embarrassés et n'avaient plus rien à trouver à se dire. Max, surtout, paraissait tout songeur et n'ouvrit pas la bouche jusqu'à la porte du bois où il se sépara de ses compagnons après un assez bref « au revoir ». Marguerite Verdier arriva fort en retard pour déjeuner ce matin-là. Elle se sentait fatiguée, émue, énervée. Dans la voiture qui la ramenait de manège où elle faisait son cheval, elle avait essayé en vain de mettre un peu d'ordre dans ses idées et de calme dans son maintien. « Bon, décidément, j'ai la migraine, » se dit-elle en montant lentement, comme à regret, les deux étages qui conduisaient à l'appartement qu'elle habitait place Saint-Michel avec sa sœur et son beau-frère. Arrivée sur le palier, une violente odeur d'oignons et de graisse brûlée lui chatouilla désagréablement l'odorat. Elle poussa un soupir, entra, ayant refermé la porte de la cuisine, toujours ouverte, elle pénétra dans la salle à manger où toute la famille réunie l'attendait. « Pardon, mes amis, je suis en retard. Jeanne, tu peux faire servir. J'ôte mon Amazon et je reviens dans 3 minutes. » Marguerite aurait eu grande envie de rester seule avec ses pensées dans la paix et le silence de sa chambre. Mais elle s'était habituée à exercer sur elle-même une sévère discipline. Elle revint donc à la salle à manger et s'efforça d'absorber ce qu'il y avait dans son assiette en soutenant la conversation avec son beau-frère. L'effort était méritoire. La cuisine, mal surveillée par la maîtresse de maison, incapable, était détestable. Quant à la conversation, elle avait généralement le don d'horripiler la jeune fille. Ce jour-là, elle l'exaspérait. Félix Le Thuel, selon son habitude, déroulait inlassablement ses histoires de bureaux insipides, faites de médisances, de potins ou de plaisanteries absurdes. Jeanne, elle parlait peu en présence de son mari, qu'il ravouait volontiers au moindre mot qu'elle disait. Mais il faut avouer que son mari n'avait pas tort ce matin-là. Elle offrait l'image du désordre le plus complet. Ses cheveux blonds, qui étaient fort jolis et abondants, pendaient de tous côtés sur son visage. Son peignoir bleu pâle, prétentieux, était garni de dentelles sales, et ses pieds traînaient d'infâmes savates. Écoutez, Félix, reprit Marguerite, qui eut pitié de sa sœur, gardez vos récriminations pour une autre fois. J'ai mal à la tête, et cela me rend tout à fait malade de vous entendre vous disputer. Tiens, c'est vrai, vous êtes toute pâle, dit l'aimable personnage à qui sa riche belle-sœur en imposait un peu. Mais je crois que c'est le soleil qui m'a fait mal. Je vais avaler mon café et aller me reposer dans ma chambre. Jeanne, tu diras qu'on me laisse tranquille. Il faudra bien, répondit celle-ci avec humeur. Comme c'est agréable. Tu te promènes le matin et tu dors après-midi. Et les robes pour demain, c'est moi qui les arrangerai toute seule? Marguerite répliqua en souriant avec indulgence. Non, non, ne t'affole pas. Nous aurons bien le temps de faire cela demain toute la journée. En ce moment, j'ai réellement besoin de repos et j'ai du travail pour ce soir. La jeune fille rentra chez elle en poussant un soupir de soulagement. Bon Dieu, qu'il fait chaud ici! S'écria-t-elle en se dirigeant vers la fenêtre. En effet, le beau soleil d'automne inondait la pièce, répandant sur les choses cette lumière d'or éblouissante, toute spéciale à l'atmosphère de Paris en général et au bord de la Seine en particulier. Cette chambre claire et gaie était délicieuse. Les murs, tendus d'une originale toile de Jouy, étaient ornés de belles gravures. Il y avait des livres sur des rayonnages, des fleurs fraîches dans les vases, une corbeille à ouvrage où voisinait une magnifique broderie et de minuscules chemises destinées à être quelque œuvre de charité, et tout enfin, dans cette retraite, attestait le bon goût comme les habitudes d'ordre de travail de celle qui l'habitait. Marguerite, après avoir contemplé une minute le merveilleux spectacle qui s'offrait à ses regards, ferma ses volets, puis s'allongea dans une confortable bergère et ferma les yeux. Le silence, l'obscurité calmèrent un peu sa migraine. Cependant, le sommeil ne venait pas. Trop de pensées confuses s'agitaient dans sa tête. Elle aurait voulu voir clair en elle-même, mais c'était une tâche ardue. L'image de Max malheureux la hantait, et c'était justement cette hantise qu'elle ne voulait ni s'avouer, ni appeler par son véritable nom. Allons, conclut-elle au bout de 2 heures de méditation, tout ceci ne signifie rien. Je suis folle. Un coup de soleil m'a égaré la raison. À mon âge, je ne vais pas me mettre à aimer ce gamin. Car c'est un enfant, hélas. Voyons, assez de rêverie. Et maintenant au travail. Ah, si j'avais à gagner ma vie comme cette chère demoiselle Varlet, j'aurais l'imagination moins folle. D'un geste énergique, la jeune fille se leva, remit un peu d'ordre dans sa toilette, puis ayant ouvert la fenêtre, s'assit devant sa table. De grandes feuilles de papier écolier couvertes d'une écriture élégante et nette s'étalait sur le buvard. C'était la traduction d'un roman anglais dont Marguerite s'était chargée pour venir en aide à sa vieille institutrice, Mademoiselle Varlet. Cette dernière était d'une délicatesse exagérée et n'aurait pas accepté un secours en argent, mais elle consentait à se laisser suppléer dans son travail par son élève reconnaissante et dévouée. Elle se mit courageusement à l'œuvre et oublia tous ses soucis dans la divine paix du travail.